Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Ici le président des États-Unis. Je m'adresse à vous en espérant que ce qui s'est produit plus tôt aujourd'hui dans le désert du Nevada n'était rien d'autre qu'un malentendu culturel. Il ne fait aucun doute, à mon avis, que nos deux peuples ont de grandes choses à s'offrir l'un à l'autre.
Chemin vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Les États-Unis vus par les philosophes, suite et fin. Le Nouveau Monde, comme idée mais aussi comme pays, est une source d'inspiration intarissable qui nous accompagne depuis lundi, avec Tocqueville et sa découverte de la démocratie américaine, puis Emerson et Stanley Cavell et l'appel à l'indépendance intellectuelle des États-Unis. La French Theory, le succès faramineux de la pensée de Derrida, ça c'était hier, dans les universités américaines. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, élection oblige, nous allons prendre au sérieux la candidature de Donald Trump à la Maison Blanche, mais oui, pour interroger l'héritage intellectuel qu'est le sien, car il y en a un et c'est passionnant. Bonjour à vous Romain Huret.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales ainsi que directeur du Centre d'études nord-américain. Et c'est vous qui allez nous aider à mieux comprendre et pourquoi pas apprendre à aimer le candidat Donald Trump.
Je fais campagne pour pouvoir écouter votre voix, pour pouvoir écouter les cris de détresse si nombreux dans notre pays. La voix des démunis, pas la voix forte de certains. Il faut que la voix des démunis soit entendue. Le temps est venu pour le règne du peuple, pas le règne des intérêts auxquels nous assistons à l'heure actuelle.
God bless our new president. May God bless our new president. Because I believe he was heavenly sent.
Donald Trump président, c'est un scénario possible pour vous, Romain Huret ?
Je suis pas du tout.
Vous n'êtes pas prophète ?
Je pense de répondre, je suis pas prophète. Je ne sais pas, peut-être, les sondages, on le voit depuis quelques semaines, se réduisent. Donc oui, c'est une option tout à fait possible. Je rappellerai juste une chose en tant qu'historien. En 1980, personne ne prenait au sérieux Ronald Reagan. Jusqu'en septembre, tout le monde pensait que son programme relevait de l'économie vaudou, comme avait dit le père de George Bush. Et donc personne ne prenait au sérieux ce candidat qui aujourd'hui est considéré comme l'un des plus grands présidents du XXe siècle. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il va devenir dans 2 mois, mais en tout cas, je pense qu'il faut au moins le prendre au sérieux. Stand behind our President Truman, each and every one of you. Oh, you know that's what FDR would want us to do.
Et le prendre au sérieux, c'est précisément l'enjeu de cette émission, Romain Huret, à laquelle je vous remercie d'avoir accepté de participer. C'est un pari qui est en fait très facile à relever quand on s'y intéresse de près, c'est que Donald Trump, montrer l'héritage intellectuel dans lequel s'inscrit Donald Trump, qui est celui notamment, commençons par ça, d'une histoire du populisme. On l'a entendu, montrer faire appel au peuple en disant « moi seul vais pouvoir être porte-parole de votre voix que personne n'entend », c'est un ressort assez classique de ce qu'on appelle le populisme, et c'est loin d'être le premier aux États-Unis.
Oui, tout à fait, c'est loin d'être le premier, et une fois de plus, on est confronté, si on cherche à analyser le phénomène, à un individu qui a ses défauts, et il ne s'agit pas du tout de revenir là-dessus, son extravagance, ses dérapages, etc. Mais dans le même temps, on voit bien qu'il a derrière lui quelque chose qu'on pourrait appeler le trumpisme, hein, que les individus le soutiennent. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheur, hein, c'est de réfléchir aux raisons qui conduisent des individus aux États-Unis à soutenir ce personnage, mm-hmm. alors que jusque à la fin du mois de juin, ils avaient une palette de d'autres candidats plus modérés. Le fils de George Bush père, dont je parlais tout à l'heure, était candidat, un candidat très modéré, avec des solutions modérées pour le Parti républicain. Et il y a eu un choix rationnel des acteurs, hein, ils n'ont pas été manipulés, de choisir Trump avec ses extravagances, avec ses projets tout à fait délirants, le mur, avec le Mexique, etc. Et donc on est confronté à ces moments tout à fait étonnants, hein, de la vie politique américaine, où on voit des personnages complètement extravagants, qui parlent au nom du peuple, et souvent qui sont habités de contradictions très profondes. Mais je crois qu'il faut essayer de comprendre le phénomène sans adhérer à cela. Il ne s'agit pas d'adhérer au personnage ou de demander à voter pour lui, voire à l'aimer, comme vous l'avez dit, mais plutôt de comprendre ce que Trump nous dit, le succès électoral jusqu'alors de Trump, nous dit de l'Amérique d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un vrai défi à la fois pour comprendre les États-Unis, mais aussi pour comprendre le monde contemporain. Et je pense qu'en France, on n'est pas à l'abri de personnages identiques qui pourraient ou qui peuvent déjà, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui peuvent déjà animer notre vie politique. Ces populismes explosent partout dans le monde. Et donc Trump doit être pris au sérieux, comme il faut prendre ces populismes-là, et surtout pas apporter l'explication simpliste à leur émergence et à leur succès.
Alors allons-y, quelle définition proposez-vous du populisme ici?
Oh, c'est extrêmement compliqué de définir, parce qu'il y a eu tellement de formes variées, hein, qui ont incarné ce populisme. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un nombre d'éléments qui définissent le populisme. Et le premier qui revient sans cesse dans l'histoire des États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, c'est le rejet des élites. Et on voit bien que Trump, même si lui-même appartient aux élites américaines, rejette les élites. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce discours s'imprègne, hein, et ce discours explique son succès, hein, puisque de tous les candidats républicains, c'est celui qui avait un discours le plus dur contre les élites, contre Washington, et qui a promis de faire de la politique autrement. Et là, on a une marque très forte du populisme aux États-Unis et ailleurs également, hein. Mais je crois que si on devait vraiment définir ce qui caractérise ce populisme-là, c'est de promettre de changer les structures et de participer. C'est là où c'est tout le paradoxe du populisme, hein, c'est qu'il participe à une vie électorale tout en promettant d'en changer les conditions mêmes, les structures mêmes.
Mais c'est finalement la promesse que fait chaque candidat en campagne. On y assiste encore aujourd'hui en France et pas seulement aux États-Unis. Tout candidat qui se présente va essayer de s'adresser à une partie du peuple qui semble être moins entendue que l'autre et en promettant d'apporter le changement.
Oui, mais je crois que ce qui différencie les populismes, c'est que les conditions mêmes de la vie politique, ce qui nous permet de vivre en société, l'état de droit, les corps intermédiaires, les institutions représentatives, sont la plupart du temps, et on a vu en France récemment des dérapages, mais en tout cas font partie d'un bagage commun démocratique. Là, dans le cas de ces populistes, ils rejettent souvent les corps intermédiaires, souvent les formes de la représentation, et ont le sentiment que des franges entières de la population ne sont pas représentées, alors qu'elles le sont, alors qu'il y a des mécanismes électoraux, des mécanismes politiques qui permettent la représentation. Trump ne cesse de répéter que la voix des sans-grades, des plus démunis n'est plus entendue, et c'est ce qui le rend, je crois, intéressant pour l'analyse intellectuelle.
Et quand on parle du populisme, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte également une dimension qui serait, disons, plus psychologique? Vous avez qualifié de Trump d'extravagant, disant que c'est peut-être cela, après tout, qui attirait aussi une partie de l'électorat américain. L'extravagance fait partie du populisme. Mmh. Je pense notamment à des personnages qui l'ont précédé, tels que McCarthy, qui en son temps faisait aussi preuve des mêmes exagérations ahurissantes et qui obtenait aussi une forme de plébiscite de la part des citoyens.
C'est toute la difficulté. C'est une grille d'analyse possible. Vous pouvez véritablement analyser Trump ou McCarthy en termes strictement psychologiques, en insistant sur le malaise, hein, et les historiens, les sociologues qui adoptent les grilles d'analyse parlent de malaise, de problèmes de statut, d'insécurité culturelle. On en parle aussi en France aujourd'hui. C'est une possibilité. Je crois qu'elle n'est pas totalement à oublier ou à critiquer, même si moi j'adhère pas totalement à cette idée que c'est simplement le déclassement des individus qui fait qu'ils se retrouvent dans un personnage comme Trump ou Le Pen ou d'autres. Mais elle est présente. Il y a toute une tradition intellectuelle très forte, hein, qui explique ces explosions de populistes, par à l'aide d'arguments psychologiques.
I think we should keep in mind when we refer to Democrats, when we refer to the administration, that there are definitely two groups of Democrats as of today. Number one, there are the millions of loyal Americans who have voted the Democrat ticket. Individuals who are just as loyal, who hate communism just as much, and love America just as much as the average Republican. That's one group. On the other hand, there is that small, closely knit group of administration Democrats who are now the complete prisoners and under the complete domination of the bureaucratic, communistic Frankenstein which they themselves have created. Ladies and gentlemen, they shouldn't be called that administration Democrat Party. To call them Democrats is an insult to the millions of loyal American Democrats. They shouldn't be called Democrats. They should be referred to properly as the Commie Crap Party.
La contestation des macartistes doit être en toute précision nommée pseudo-conservatrice. Et j'emprunte le terme à la personnalité autoritaire de Théodore Adorno et de ses collègues. Car ses partisans, quoiqu'ils se pensent eux-mêmes conservateurs et emploient la rhétorique du conservatisme, montrent les signes d'une insatisfaction sérieuse et persistante quant au mode de vie américain, aux traditions américaines et aux institutions. Ils ont peu en commun avec l'esprit de tempérance et de compromis qui est le propre du véritable conservatisme au sens classique du terme, et le conservatisme dominant et pragmatique de l'époque, tel que l'incarne l'administration Eisenhower, est bien loin de les satisfaire. Leur réaction politique exprime plutôt une haine de notre société, de son fonctionnement, qui, si elle est en grande partie inconsciente, n'en est pas moins profonde. Une haine qu'on hésiterait à leur attribuer sans les preuves apportées, aussi bien par les techniques cliniques que par leur propre mode d'expression. Romain Huret, on a entendu la voix de McCarthy, c'était en 1950, qui parlait du groupe des démocrates en distinguant deux partis au sein de ce groupe des démocrates, dont disons le groupe démocrate de l'administration, qui sont, dit-il, complètement prisonniers sous la domination complète du Frankenstein bureaucratique et communiste qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc une espèce de jargon, la référence à Frankenstein paraît complètement absurde, mais à l'avantage de susciter un effet chez quiconque l'entend, on voit un monstre en fait, c'est à ça que ça sert. Et ensuite j'ai lu un extrait d'un texte de Richard Hofstadter sur le style paranoïaque qui définit ce qu'est le macartisme en termes notamment psychologiques, on y reviendra, mais surtout il fait une distinction très intéressante qui nous est utile pour penser à la figure même de Trump, c'est que le populisme n'est pas forcément l'apanage du conservatisme. En l'occurrence, ce que McCarthy et Trump ont en commun, c'est de surfer sur une forme de rébellion, d'indignation, voire de haine, dit Hofstadter, de la société américaine telle qu'elle l'est aujourd'hui.
Tout à fait. Politiquement, Hofstadter a raison. C'est-à-dire que ces mouvements peuvent puiser dans le mouvement conservateur, mais ils vont bien au-delà. Et on voit bien que Trump cherche à séduire aujourd'hui l'électorat de Bernie Sanders, donc le candidat le plus à gauche. Donc on voit bien que ce sont des mouvements qui, par leur dynamique anti-élite, veulent aussi repositionner la vie politique américaine. Mais au-delà de cela, ce que je trouve très intéressant, à la fois dans l'extrait de McCarthy et dans le texte d'Hofstadter, c'est qu'on est dans une modalité d'interprétation dont j'ai parlé, c'est la modalité psychologique. C'est ça. Et Hofstadter, quand il écrit ce texte-là dans les années 50, il est très influencé par les débats de la vie intellectuelle américaine et mondiale, qui cherche à comprendre l'Holocauste, qui cherche à comprendre le nazisme, et donc il baigne dans un monde d'universitaires qui vont mettre en avant des arguments psychologiques. On n'a pas de personnalité autoritaire, donc l'école de Francfort, Adorno, etc., pour comprendre l'adhésion des masses au fascisme, au nazisme et au macartisme. Et il en fait une analyse intellectuelle, c'est de l'histoire intellectuelle. Hofstadter n'est jamais allé dans les archives, n'a jamais cherché à comprendre ce mouvement par la base, par des archives, par des documents qui auraient pu permettre de penser le mouvement. Il en fait simplement une analyse intellectuelle et il utilise des catégories. Il est à New York, donc il discute beaucoup avec des psychologues, etc. Il va utiliser des catégories psychologiques pour comprendre le macartisme, pour comprendre la Goldwater, le candidat conservateur 10 ans plus tard. Il utilisera les mêmes arguments psychologiques. Et pour lui, on a affaire à un problème de déclassement social. pour des raisons ethniques. Ce sont les Allemands, par exemple, du Wisconsin, qui ont été très embêtés, très déclassés pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de leur double appartenance ethnique, et donc qui ont voulu, en quelque sorte, surréagir après la guerre en montrant leur loyauté à l'égard du gouvernement américain. Ou alors des petits blancs déclassés, cette figure mythique du petit blanc déclassé dans le Sud ou ailleurs, qui adhèrent parce qu'ils se sentent en insécurité culturelle et économique, qui vont adhérer à un mouvement comme le maccartisme ou le Whataburger. Le seul problème de cette analyse, c'est qu'elle est en partie fausse, et que des historiens...
Fausse ou incomplète, ou insuffisante
en fausse, je pense. C'est-à-dire que les militants qui soutiennent Goldwater, par exemple, dans les années 60, ne sont pas des petits blancs déclassés. Ils peuvent être présents, mais la majorité des militants et des militantes appartiennent à des catégories, à des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, dotées d'un très très fort capital culturel et économique. Il y a eu une très belle étude par une historienne américaine qui a travaillé sur la Californie et le sud de la Californie, le comté de Cook, de Orange, pardon, qui est l'un des plus riches de Californie, donc l'un des plus riches du monde. Et tous ces médecins, ces avocats, ces agents immobiliers soutiennent Goldwater. Donc on ne peut pas parler de déclassement culturel, on ne peut pas parler de mise à l'écart par la modernisation, par la croissance, etc. Donc on a une analyse qui est problématique. Voilà. Et ceci étant dit, le succès du livre de Hofstadter est très réel. Il a été traduit en France dans la très bonne...
Il s'appelle Le style paranoïaque, théorie du complot et droite radicale en Amérique, et c'est chez François Bourin, éditeur.
Tout à fait, oui, la collection de Julia Charney, la Washington Square, qui a traduit. C'est un texte très intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette grille d'analyse psychologique est très présente. Moi, je suis frappé dans les médias français ou américains de voir à quel point on parle d'insécurité pour parler des électeurs de Trump. On parle de problèmes psychologiques, de paranoïa, pour parler de Trump lui-même. Il y a une députée américaine qui a réclamé une analyse clinique de Trump.
Donc,
ce vocabulaire clinique-là. Et une fois de plus, moi, je ne suis pas là pour critiquer très fortement, mettre aux oubliettes une elle est possible. C'est une grille d'analyse possible. On peut comprendre Trump en termes cliniques. On peut, en termes d'insécurité, c'est une possibilité qui est bien réelle. Mais je pense qu'elle doit être complétée par d'autres formes.
Alors justement, par quoi doit-elle être complétée? Si on prend vraiment Trump au sérieux, est-ce qu'on ne peut pas dire vraiment sérieusement qu'il a, alors peut-être pas tout compris, mais qu'il a bien compris une chose de la vie politique américaine et qu'il sait surfer sur les ressorts de la démagogie au moment où il le faut, en appelant à ce qu'il appelle lui-même le petit peuple de manière implicite, pour gagner une telle popularité?
Vous avez tout à fait... Absolument raison. Je pense que le terme d'insécurité peut être utilisé, mais ma difficulté, c'est que le terme d'insécurité est toujours utilisé pour parler d'insécurité culturelle. C'est-à-dire qu'il y aurait un malaise des petits blancs qui explique leur malaise par rapport aux transformations ethniques des États-Unis, etc. On rappelle rarement, et c'est un moyen d'objectivité cette insécurité, qu'elle a des motivations économiques. Et la force de Trump, c'est d'avoir compris que l'un des enjeux du débat aujourd'hui, c'est de réfléchir aux effets de la mondialisation. Et Bernie Sanders l'a fait à sa manière, Trump le fait à sa manière, une fois de plus, extravagante, etc. Mais néanmoins, ce qu'il pose aujourd'hui, c'est quels sont les effets de la mondialisation, quels sont les effets des politiques démocrates de dérégulation. Et on voit bien aujourd'hui que tous les indicateurs sociaux aux États-Unis sont dans le rouge. C'est-à-dire que le malaise, je vais utiliser cette catégorie que je n'aime pas, ce terme que je n'aime pas, mais néanmoins, le malaise, on peut l'objectiver. Juste pour prendre quelques chiffres, 43 millions d'Américains utilisent des coupons alimentaires. 43 millions, c'est les chiffres. Ils n'ont jamais été aussi élevés dans toute l'histoire des États-Unis.
Et 15% des Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Des sociologues, Christopher Nett et Isaac Martin, ont fait une étude sur les gens qui ont dû vendre leur maison à la suite de la crise de 2008. Ils chiffrent le nombre d'Américains qui ont quitté leur maison pour vivre dans des mobil-homes ou pour retourner dans leur famille à 12 millions de personnes en 2008. Donc il est évident que ces dérèglements sociaux très forts, là on parle de personnes, d'individus, de familles qui doivent abandonner leur maison, qui doivent aller choisir leurs parents, soit vivre dans des mobil-homes. Donc on a des drames familiaux qui sont extrêmement forts. Trump pose la question. Je ne pense pas qu'il ait les moyens d'y répondre. Je ne pense pas qu'il ait des solutions pour y répondre. Je ne pense pas que ce soit peut-être la personne la mieux placée pour y répondre. Mais en tout cas, il ouvre le débat sur des politiques économiques aux États-Unis, des politiques sociales.
Oui.
Qui ont été mises en place il y a une trentaine d'années, même si lui-même, je le répète, je pense que lui-même est un pur produit de la mondialisation, un pur produit des élites économiques.
Non mais surtout, est-ce dû à son talent, son savoir-faire, à la popularité qui lui revient aujourd'hui, ou est-ce que par le contexte économique que vous venez de décrire, il y a une demande justement particulière, une sensibilité de l'électorat américain à quiconque va s'intéresser à ce problème-là. Parce que pour remonter dans l'histoire du populisme américain, on peut revenir jusqu'en 1800, dans les années 1890, avec l'apparition de ce qu'on appelait le People's Party. Donc c'était un mouvement populiste qui, de même, surfait sur un contexte économique extrêmement difficile pour la plupart des citoyens américains et qui a connu une grande popularité grâce à ça.
Absolument. Et la fin du 19e, c'est ce qu'on appelle souvent la première mondialisation. La modernisation qui se met en place est extrêmement difficile hein, d'un point de vue quotidien, hein, l'urbanisation, l'industrialisation, etc. et crée un rejet des élites aussi qui ont adopté ces politiques économiques et va amener les Américains à adopter des formes de régulation. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis 30 ans, les formes de régulation d'un capitalisme débridé, d'un capitalisme extrêmement violent pour une majorité d'Américains ont été démantelées ou ont été amoindries. Et l'un des responsables, c'est Bill Clinton. Hein. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais l'un des responsables, c'est des maîtres d'œuvre de la dérégulation économique. Et on a souvent dit que sa dérégulation avait conduit à la crise économique de 2008. C'est Bill Clinton. Hein. Donc on voit bien comment c'est une des raisons pour laquelle, sans doute, Trump a choisi ce thème-là. Mais je pense que simplement, il a vu, comme tout le monde, il a été étonné par le succès de Bernie Sanders, candidat socialiste, donc dans la tradition du People's Party, et qui a mis l'accent sur les effets de la mondialisation, sur les effets de la dérégulation et sur les difficultés pour, bien évidemment, les Américains les moins fortunés, mais également les petites classes moyennes, pour accéder à l'université, pour accéder au logement, etc. Il y a un vrai débat. Ça fait 20 ans que je travaille sur les États-Unis. Le débat sur les inégalités n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Et donc, parler d'insécurité culturelle, pour revenir à l'analyse d'Hofstadter, c'est oublier qu'il y a aussi une insécurité économique, qu'il y a une insécurité quotidienne. C'est-à-dire, comment vais-je payer pour que mon enfant aille à l'université? Comment vais-je payer pour faire... etc. etc.
Le paradoxe étant que Trump est lui-même richissime.
Une fois de plus, je pense qu'il faut distinguer Trump, le personnage, des thématiques qu'il est en train de mettre en avant, qui sont assez similaires à celles que Sanders a mis en avant. Hein, ce que je regrette le plus, c'est que l'extravagance du personnage rendra impossible le débat. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce débat-là, mais qui, à mon avis, est essentiel. Il faudrait débattre de mondialisation, il faudrait débattre d'accès à l'université, d'accès au logement, de dette, etc., etc. Et je crains que par sa folie, ses extravagances, le débat n'ait pas lieu, et je ne pense pas qu'Hillary Clinton elle-même ait des raisons d'ouvrir ce débat-là, parce que c'est remettre en cause la politique économique à laquelle elle-même a participé. Mais néanmoins, je pense que ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel débat, et je crains que l'analyse psychologique nous conduise à enfermer Trump dans sa boîte après sa défaite, en disant voilà, Hillary a gagné, alors que les questions qu'il pose sont des questions tout à fait importantes pour la démocratie.
Alors, si on tente de laisser de côté l'analyse psychologique un temps, de prendre au sérieux cette fois-ci l'exercice du candidat en tant que tel, du candidat Trump en l'occurrence, mais du candidat plus largement, on peut se tourner vers Max Weber qui, dans Le Savant et le Politique, juste avant de proposer la fameuse distinction entre éthique de responsabilité et éthique de conviction, eh bien, il dresse un portrait de l'homme politique qui serait, selon ces termes, vaniteux, hein, quant à sa puissance. C'est dans le politique comme métier et vocation. Et écoutez, quand on essaie de penser au personnage Trump, ou plutôt à la figure qu'il incarne, avec ce texte en tête, ça paraît extrêmement efficace.
Il n'existe que deux sortes de péchés mortels en politique. Ne défendre aucune cause et n'avoir pas le sentiment de sa responsabilité. Deux choses qui sont souvent, quoique pas toujours, identiques. La vanité, ou en d'autres termes, le besoin de se mettre personnellement de la façon la plus apparente possible au premier plan, induit le plus fréquemment l'homme politique en tentation de commettre l'un ou l'autre de ses péchés, ou même les deux à la fois. D'autant plus que le démagogue est obligé de compter avec l'effet qu'il fait. C'est pourquoi il court toujours le danger de jouer le rôle d'un histrion, ou encore de prendre trop à la légère la responsabilité des conséquences de ses actes, tout occupé qu'il est par l'impression qu'il peut faire sur les autres. D'un côté, le refus de se mettre au service d'une cause le conduit à rechercher l'apparence et l'éclat du pouvoir au lieu du pouvoir réel. De l'autre côté, l'absence du sens de la responsabilité le conduit à ne jouir que du pouvoir lui-même sans aucun but positif. En effet, bien que, ou plutôt parce que, la puissance est le moyen inévitable de la politique, et qu'en conséquence le désir du pouvoir est une de ses forces motrices, Il ne peut y avoir de caricature plus ruineuse de la politique que celle du matamore qui joue avec le pouvoir à la manière d'un parvenu, ou encore Narcisse vaniteux de son pouvoir, bref, tout adorateur du pouvoir comme tel. Une pareille politique n'est jamais que le produit d'un esprit blasé, souverainement superficiel et médiocre, fermé à toute signification de l'activité humaine. Rien n'est d'ailleurs plus éloigné de la conscience du tragique, qu'on trouve dans toute action et tout particulièrement dans l'action politique, que cette mentalité.
While some on rights and some on wrongs prefer their own reflections, the people's rights demand our song, the right of free elections, for government and order's sake and law's important sections. Let's all stand by the ballot box for freedom of elections.
Law and order be the stake with freedom and protection. Let all stand by the ballot box for fair and free elections.
Each town and county's wealth and peace, its trade and all connections with science, arts must all increase by fair and free elections. Then thwart the schemes of fighting lands and traitor disaffections. Stand up with willing heart and hands for fair and free elections.
Law and order be the stake with freedom and protection. Let all stand by the ballot box for fair and free elections.
Should enemies beset us round of foreign fierce complexions, undaunted we can stand our ground, upheld by free elections. Elections are to make us laws for trade, peace and protection. Who fails to vote forsakes the cause of fair and free elections.
Law and order be the stake with freedom and protection. Let all stand by the ballot box for fair and free elections.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h27. C'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrées aux États-Unis vues par les philosophes et les intellectuels. Et pour l'occasion, pour sa dernière émission, j'ai le plaisir de recevoir en studio Romain Huret, qui est directeur du Centre d'études nord-américain et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui vient vous parler aujourd'hui de l'héritage intellectuel, mais oui, de Donald Trump. Alors, on a entendu un texte de Max Weber juste avant la chanson, Romain Huret. On y entendait dans ce texte, comme en filigrane, hein, le portrait de Donald Trump, ce qui semble penser, puisque voilà, il dit deux sortes de péchés mortels en politique, ne défendre aucune cause, n'avoir pas le sentiment de sa responsabilité. Finalement, Trump défend une cause, mais on peut s'interroger sur la conviction qui précède la défense de cette cause. Le portrait type que brosse ici Weber d'un homme politique blasé et vaniteux semble inéluctable en démocratie. Finalement, Trump n'a rien d'exceptionnel. Il y a des populistes de ce type-là dans toutes les démocraties qui existent aujourd'hui.
Oui, absolument, oui. Le texte de Max Weber est fascinant pour cela. On voit très bien en creux, hein, pas un portrait de Trump, mais vous avez raison, au-delà de lui-même, un portrait de beaucoup d'hommes politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne défend pas une cause, il en défend beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a assez Trump, et c'est là-dessus qu'il joue aussi sur ce populisme. Et les populistes jouent sur la pluralité des modes d'action. Ce sont des hommes d'action, hein. On voit bien que il y a un paradoxe à parler d'héritage intellectuel, puisque lui-même, je suis pas sûr qu'accepterait cette idée qu'il a un héritage intellectuel, puisqu'il se présente toujours comme un homme d'action.
Et sa
marque de fabrique, ouais, c'est l'action. Mmh. C'est-à-dire que c'est
lorsqu'il... Oui, mais ça, pour le coup, il y a une histoire intellectuelle de la valorisation de l'action dans la pensée américaine.
Tout à fait, je parlais de lui-même et de la manière dont le... Les meetings, hein, les réunions électorales de Trump sont souvent très anti-intellectuelles, hein, et ce qui fait sa force, nous dit-il, c'est précisément sa capacité à agir. C'est en cela, on voit bien qu'il, les corps intermédiaires dont je parlais tout à l'heure disparaissent. Et il dit que c'est lui-même qui va renégocier avec la Chine.
Aucun homme politique ne fera campagne sur la réflexion, c'est toujours l'action qu'on attend d'eux. Bon.
Peut-être, mais ça s'est un peu dégradé à ce niveau-là. Il y a quand même eu des hommes politiques qui avaient un héritage intellectuel plus fort, plus revendiqué. Là, on assiste quand même à une efficacité qui ne se mesure qu'en termes d'action. Et Trump lui-même le dit, il ira à la table lui-même pour renégocier les traités avec la Chine, pour renégocier les grands traités de libre-échange, pour renégocier avec le président mexicain avec la construction du mur et le paiement du mur. Donc il y a une mise en avant très forte de la personnalité, du corps, hein, du corps physique de Trump et de son expérience, non pas en tant que professionnel de la politique, mais en tant qu'homme d'affaires, etc., etc., qui lui permet aujourd'hui de se présenter devant les Américains. Et on voit que ce discours séduit.
C'est ce qu'il reproche à Clinton.
C'est ce qu'il reproche à Clinton, bien sûr, d'être une professionnelle de la politique et donc de ne jamais avoir mis les mains dans la vie professionnelle, etc., etc. Et donc, alors que lui-même se met en avant. Mais là, une fois de plus, on a une rhétorique très ancienne de toutes les formes de populisme, opposant les hommes d'action à des hommes qui... Je me souviens plus de la citation d'Alain sur... Les hommes qui ont pas, qui ne savent pas qu'ils ont des mains. Je m'excuse pour vos auditeurs qui.
On vérifiera, et on mettra ça en ligne sur le site des chemins. Mais la question que pose ce texte également, c'est celle de la différence, la distinction entre le populisme d'une part et la démagogie de l'autre. Puisque finalement, si tout populiste est démagogue, on peut être démagogue sans forcément être populiste.
Absolument, tout à fait. Et même, j'ai le sentiment qu'il y a, alors il faudrait s'entendre sur les termes, bien évidemment, mais dans Trump n'est pas un démagogue au sens que Weber parlait de séduction. On voit bien qu'il tape fort, qu'il tape de manière souvent inconséquente, qu'on lui reproche de ses propos contre les Mexicains, ses propos contre les Afro-Américains, contre les femmes. Et donc s'il avait une logique stricte de séduction, il aurait modéré ses propos. Et là, il a quand même tapé extrêmement fort sur une frange très importante de l'électorat, avec les conséquences électorales qui seront sans doute importantes en novembre. Mais on voit bien que dans cette revendication d'action et dans cette envie de séduire une frange très spécifique de l'électorat et de mettre en débat leurs inquiétudes, il appartient totalement à cette tradition populiste aux États-Unis.
Le bon avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons.
Quand le Mexique nous envoie des migrants, ils ne nous envoient pas les meilleurs. Ils ne nous envoient pas vous ou vous. Ils nous envoient des gens avec des problèmes. Des gens qui emmènent leurs problèmes avec eux. Ils amènent de la drogue. Ils amènent le crime. Ce sont des violeurs.
Tous ces particuliers qui se font payer, ceux que ces gens-là appellent justement sophistes et qu'ils regardent comme des rivaux dans le domaine des arts, n'enseignent pas d'autre doctrine que celle-là même qu'adopte la population lorsqu'elle se réunit en assemblée. Et c'est à cela qu'ils donnent le nom de sagesse. Ils ressemblent en cela à quelqu'un qui, dans le but de nourrir un animal, grand et fort, s'instruirait d'abord de ses instincts et de ses appétits, de la manière de l'approcher, de le toucher, des moments où il est de contact difficile et où il est plus doux, et des raisons qui le rendent ainsi, des sons de voix qui, dans telles circonstances, le font pousser tel ou tel cri, et des sons qui l'adoucissent ou l'irritent. Après avoir appris tout cela, après avoir partagé l'existence de l'animal et consacré beaucoup de temps à l'observer, notre homme donne le nom de sagesse à son expérience et il la systématise pour en faire un art et se met à l'enseigner sans connaître véritablement, dans ses doctrines comme dans ses comportements instinctifs, ce qui est beau ou laid, bien ou mal, juste ou injuste. Il utilise tous ces termes selon les opinions du gros animal. Il appelle bonnes les choses qui lui font plaisir, mauvaises celles qui l'irritent, incapable par ailleurs de donner quelques fondements de raison à tous ses jugements. Et il va jusqu'à appeler juste et belle des choses qui sont nécessaires, n'ayant jamais pris en considération la différence fondamentale qui sépare la nature de ce qui est bon et celle de ce qui est nécessaire, pas plus qu'il n'est en mesure de la faire voir à quelqu'un d'autre. Le portrait que propose Platon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, du sophiste dans le chapitre 6 de la République, est cocasse à plusieurs titres, déjà parce qu'il compare le peuple à une forme d'animal, ou disons l'interlocuteur du sophiste à une forme d'animal, donc il s'agirait d'apprivoiser pour savoir comment lui parler. On peut très bien reporter la comparaison entre un candidat à une élection américaine ou française et le peuple auquel il s'adresse, mais aussi on peut retourner la métaphore de l'animal. Ici, c'est difficile de ne pas penser à Trump, puisque c'est le sujet de l'émission, hein, ce gros animal qu'il s'agirait de dompter pour savoir comment lui parler. Hillary Clinton devrait sans doute lire ce texte, d'ailleurs, pour savoir comment s'y prendre. Et finalement, voilà, pour en venir à cette notion de démagogie nécessaire dans l'exercice démocratique, comment finalement s'opère le glissement entre cette démagogie que Platon appelle sophiste et qu'on on entend, il suffit d'allumer la radio ou d'allumer la télé pour entendre les candidats et l'utilisation qu'ils en font. Comment passons cette démagogie, encore une fois, au populisme, puisqu'on a pris soin de les distinguer. Chez Le Pen, dont on a entendu la voix juste avant, et chez Trump, c'est bien différent. Et pourtant, tous les deux ont une utilisation populiste de la rhétorique démagogique. Romain Huret.
Je pense que le moment où le populisme se met en place, c'est lorsqu'il, ce qui est une simple démagogie, un simple discours démagogique, séduit ou intéresse peu de monde.
Parce que démagogie, ça veut dire conduire le peuple.
Anecdotique en quelque sorte. Ce qui est fascinant, c'est que la comparaison que vous avez faite avec Le Pen et ce discours-là, Le Pen pendant des années n'a pas été pris au sérieux. Si on compare
alors
à la vie politique.
Là, il est à l'inverse de Trump. Lui, il se dit j'étais pauvre aussi, j'étais mineur quand Trump est riche ici.
Il y a peut-être la même logique. C'est-à-dire la logique est similaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ces formes de discours démagogiques, tout d'un coup, entrent en accord ou trouvent un point d'équilibre avec les mondes sociaux. Des individus se reconnaissent. Qu'est-ce qui explique la bascule? Qu'est-ce qui explique Le Pen, qui était un trublion de la vie politique dans les années 70, qui mettait l'accent sur des thèmes qui étaient négligés par la plupart des partis? Aujourd'hui, son héritage intellectuel, c'est un des premiers, le premier, deuxième ou troisième parti de France. Même chose pour Trump, c'est-à-dire que ce candidat complètement... que personne ne prenait au sérieux il y a un an et demi, tout le monde disait que il ne passera jamais les primaires, etc. Tout d'un coup, on a vu ces propos qu'on entend souvent, c'était pas le seul à dire ces propos-là. Tout d'un coup, il y a un point d'équilibre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce point d'équilibre. Comment on arrive là et comment est-ce qu'on peut essayer d'objectiver ce point d'équilibre et ne pas en faire quelque chose qui relève de la psychologie ou qui va disparaître, parce que un des arguments aussi sur les populismes, c'est d'annoncer leur disparition. On l'a fait avec Le Pen, on le fait sans cesse avec Le Pen, enfin le mouvement le pénisme. On dit ça va disparaître, ça va s'effacer. Hofstadter dit la même chose dans les années 50 quand il parle de ces populismes. Il dit à la fin, l'éducation, la démocratisation de l'enseignement supérieur, etc., tout ça va renvoyer aux oubliettes de l'histoire ces explosions de violence, cette insécurité-là. Il faut éduquer, il faut développer l'enseignement, ce qui s'est très largement fait aux États-Unis ou en France. Et donc, on se heurte sans cesse à ces objets non identifiés, hein, qui, moi, je pense, doivent être vraiment analysés avec lucidité, avec pondération, pour essayer de comprendre ce qu'ils nous disent, aussi bien pour le mouvement de Jean-Marie Le Pen ou pour Trump.
Et jusqu'où tient cette comparaison d'ailleurs, parce que Le Pen en France est considérée, enfin maintenant c'est Marine Le Pen, la fille qui est qu'on associe à un courant extrême. Trump, lui, il est candidat républicain.
Il est candidat républicain parce qu'il a réussi une OPA sur le Parti républicain. Je ne sais pas si Marine Le Pen arrivera à faire la même chose, c'est-à-dire à prendre un parti plus centriste. Je sais pas, une fois de plus, je ne suis pas prophète. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on écoute Marine Le Pen et qu'on écoute Donald Trump, les thématiques utilisées sont les mêmes. C'est-à-dire c'est promettre le retour de l'État protecteur. L'État qui va négocier avec les Chinois, qui va mettre un mur, etc. etc. Alors, on est dans des propositions démagogiques. Mais néanmoins, une fois de plus, on sent bien que ces formes-là de régulation séduisent et que peut-être, on aura peut-être le temps d'en parler, mais ça renvoie aussi aux lacunes de la gauche politique.
Voilà, justement, c'est là où il faut en venir.
D'Hillary Clinton ou de la gauche française.
Quelle lacune invite ces candidats à aller si loin?
Que ces gens qui se sentent en insécurité à cause de la mondialisation ne se reconnaissent plus dans des partis de gauche et vont voter pour Marine Le Pen ou pour Trump nous dit beaucoup de choses sur l'adhésion d'une gauche du gouvernement au libre-échange, à la mondialisation, etc. etc. On a de plus en plus en France le Parti socialiste ou le Parti démocrate aller vers le centre et oublier son héritage ouvrier. Et on a de moins en moins, on parle les 5 années du mandat de Hollande, on a davantage parlé de la City, de bourse, que des effets de la mondialisation, d'insécurité économique. Et donc je pense ces trublions agissent très très fortement hein, sur les lacunes, sur les difficultés structurelles hein, de nos pays et surtout les ravages de la mondialisation, pas auprès de tout le monde. Hein, il y avait une étude qui montrait que les gens qui bénéficient le plus de la mondialisation votent Hillary Clinton. C'est-à-dire que ce libre-échange, cette mondialisation, bénéficie à une grande partie des Américains. Et ces Américains se reconnaissent dans Hillary Clinton et dans les 20 ans de politique menée par les démocrates lorsqu'ils étaient au pouvoir. Donc on voit Trump, une fois de plus, agit là-dessus et montre qu'il y a eu des oubliés de cette mondialisation. Et que ceux-ci sont allés soit du côté de Sanders, qui a promis... Je prends toujours un exemple, c'est la question de la gratuité des frais de scolarité hein, pour l'enseignement supérieur dans les universités publiques aux États-Unis, qui était une promesse de Sanders. Et là, la promesse était extrêmement populaire, puisque c'est un vrai casse-tête hein, quotidien pour des millions d'Américains, le paiement de l'université pour leurs enfants. Et là, Sanders avait une mesure très simple en disant « c'est une université publique, et donc il faut la gratuité des frais de scolarité pour les enfants ». Ici, le milieu défavorisé.
Jamais, au grand jamais, je n'ai entendu un candidat admettre qu'il ait reçu des sommes faramineuses du secteur du pétrole, du charbon, de Wall Street ou de l'industrie de la défense. Tous disent « Je ne vais pas me laisser influencer par ces financements. Je serai indépendant. » Mais pourquoi alors est-ce que tous ces gens que j'ai cités payent-ils des millions aux campagnes des candidats? Eh bien, c'est parce qu'ils attendent un renvoi d'ascenseur. Tout le monde le sait.
Voilà, c'est la voix de Sanders, justement, lors d'un débat contre Hillary Clinton où il souligne l'influence des donations des lobbies sur la vie politique américaine. Finalement, Hillary Clinton est dans une position assez troublante pour elle-même puisqu'elle, à la fois, elle s'est distinguée de Sanders pour gagner les primaires et de l'autre, elle doit quand même se rallier à une partie de la gauche pour proposer une espèce d'alternative vraiment viable face à Trump. Et dans cette opposition, ce qui est surprenant, c'est que finalement, tout le parti que représentait avant quelqu'un comme Ted Baker n'est plus représenté. Justement, la droite qui est vraiment conservatrice pour le coup, qui n'est pas dans la provocation de Trump. C'est que finalement, les deux candidats ne sont pas vraiment représentatifs des précédents partis démocrates et républicains. L'idée qu'on s'en faisait avant, en tout cas.
Absolument, il y a des reconfigurations intéressantes, hein, puisqu'une partie de l'aile conservatrice religieuse notamment a du mal avec Trump, qui n'est pas un modèle de vertu, qui ne se couche pas à 9h du soir comme George Bush fils, hein, donc il a une vie un peu dissolue, donc il a beaucoup de conservateurs traditionnels et là, cette droite religieuse ont eu du mal à se reconnaître dans le personnage. Même chose pour Hillary Clinton, hein, on voit bien que le nombre très important, et j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment une surprise qui s'est passée autour de Bernie Sanders. Ça dit quelque chose aussi de très très fort. Comme Trump dit quelque chose, on aurait pu faire aussi une émission sur Bernie Sanders. Mmh. Qu'est-ce que Bernie Sanders nous dit? Ben, il dit qu'il y a des jeunes, notamment, ce qui est rassurant, qui entrent en politique et qui ont envie de revenir à des dirigeants qui font de la politique, qui vont contre les intérêts, qui vont contre les lobbies et qui vont... permettre hein, à ces millions d'Américains qui rencontrent des difficultés quotidiennes très très importantes de pouvoir prétendre au rêve américain, de pouvoir à un logement, à l'université, etc. Comme les générations précédentes. Hein, le succès incroyable du livre de mon collègue de l'HESS, Thomas Piketty, aux États-Unis, qui a été un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires, montre bien que cette question de l'inégalité devient... un vrai débat, alors que dans les années 80-90, on parlait très très peu d'inégalité. Là, il y a un vrai débat. C'est-à-dire,
Sanders a été écarté.
Finalement, a été écarté ouais. Parce que les logiques de parti sont ainsi faites, les logiques électorales. Il a beaucoup critiqué le système aussi de nomination. On a des structures. Les structures sont souvent plus lentes que les mouvements sociaux. Donc l'enjeu, sans doute, pour un candidat issu de la gauche, ce sera de prendre le parti comme certains l'ont fait à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce débat-là sur les inégalités est réel. Et une fois de plus, je souhaite que les débats télévisés portent là-dessus, portent sur la question des inégalités, portent sur la question des effets de la mondialisation et des moyens d'y remédier. Je souhaite qu'Hillary Clinton, elle a commencé, hein, elle a un peu gauchi son discours, apporte elle-même des solutions en puisant dans un héritage intellectuel, politique de la gauche américaine. Mais je crains que pour des raisons électorales, il faut qu'elle apparaisse comme crédible, comme centriste, ça soit pas...
C'est que finalement, la configuration est tellement inédite que les débats de fond qui constituent le lot commun d'une campagne, quel que soit le pays, en démocratie en tout cas, sont noyés sous la recherche stratégique de positionnement en réalité.
Exactement. Et je pense que le caractère fantasque de Trump va encore plus empêcher la tenue de vrais débats. Mais c'est dommage parce que je pense qu'un débat sur, une fois de plus, je le répète, hein, sur la mondialisation, sur ses effets, permettrait sans doute de mieux réfléchir à la situation et d'apporter une réponse, sans doute, une réponse politique à ces formes d'insécurité que manifestent Trump et le Trumpisme.
I was feeling kind of low down and blue. I didn't know what I was gonna do. The communists was coming around. They was in the air, they was on the ground. They was following me all over. I run down most hurriedly and joined the John Birch Society. Got me a secret membership card, started walking off down the road. Yee-hoo! I'm a real John Butcher now, look out!
Merci beaucoup Romain Huret d'être venu nous parler du Trumpisme aujourd'hui.
Merci à vous.
Puisque Donald Trump, alors il y a un auteur que vous nous aviez conseillé, dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, c'est Charles Wright Mills, qui a écrit un ouvrage en 56 intitulé « L'élite au pouvoir ». Peut-être que vous pouvez dire en deux mots à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour comprendre le Trumpisme.
C'est un ouvrage qui a été traduit en 56, mais qui a été traduit récemment, je crois, il y a 3-4 ans en France. J'invite vos auditeurs à le lire. C'est un sociologue qui a essayé de réfléchir à l'élite du pouvoir, hein, et à la manière dont une petite élite, un petit nombre de personnes dirigeait le pays, au-delà des formes traditionnelles de la représentation.
Donc,
c'est un livre passionnant et qui explique pourquoi les deux candidats appartiennent à l'élite du pouvoir économique et politique.
Et donc nécessaire pour aussi comprendre les fondements populistes de Donald Trump.
Absolument.
Look behind a sink, behind a chair, I was looking for them reds everywhere.
De vous, on peut lire en anglais American Tax Resisters, qu'on trouve au Harvard University Press, et en français La fin de la pauvreté, les experts sociaux et la guerre contre la pauvreté aux États-Unis, ainsi que Katrina 2005, L'ouragan, l'État et les pauvres.
I peeked behind a picture frame, got a shock from my feet that hit me right up in the brain, them reds did it.
Demain, pour la fin de cette semaine consacrée aux États-Unis, à l'Amérique, et bien demain ce sera une journée spéciale sur France Culture consacrée à l'Amérique, et bien en lieu et place de l'entretien avec Martha Nussbaum que nous vous avions promis, qui aura lieu juste un petit peu plus tard, et bien nous proposerons de découvrir, redécouvrir une émission enregistrée avec le philosophe Michael Sandel, c'était il y a 2 ans sur Le Nouveau Chemin, et donc demain vous pourrez redécouvrir cette émission.
Oh, Betsy Ross.
Et enfin, un dernier mot avant de passer la parole à Géraldine Osma-Savoie. Je vous rappelle que Les Nouveaux Chemins sont partenaires de Philosophie Magazine. Philosophie Magazine qui vous propose ce mois-ci un numéro intitulé « À quel point sommes-nous prévisibles ?» avec notamment un petit livret central consacré à Pic de la Mirandole et la dignité humaine. Un livret central écrit par Jean-Christophe Saladin et Michel Siliberto.
Lincoln, Jefferson and that Roosevelt guy. To my knowledge, there's just one man that's really a true American, George Lincoln Rockwell.
Vous écoutez France Culture, Le Nouveau Chemin de la Connaissance. Il est 10h et presque 48 minutes. C'est l'heure de retrouver les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Vous nous parlez d'Ivan Illich aujourd'hui.
Ivan Illich, l'alchimiste des possibles. C'est un ouvrage collectif qui est paru sous la direction de Martin Fortier et de Thierry Paco chez Le Mieux Éditeur.
L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessité de cette capitalisation.
Né en 1926 à Vienne, Ivan Illich a d'abord été prêtre à New York. Il a ensuite dirigé l'université de Porto Rico et puis il a traversé l'Amérique du Sud pour fonder un centre de recherche ouvert à tous à Petropolis au Brésil. Et puis il s'est installé au Mexique pour mettre sur pied le Centre interculturel de documentation, une sorte de petite république indépendante, comme Illich le dit lui-même. Et puis enfin, il est rentré en Europe pour enseigner l'histoire du Moyen-Âge à Brême. La vie d'Ivan Illich a tout du voyage, des pérégrinations et de l'errance heureuse. Et ce qui frappe dans cette vie, c'est bien tout l'imaginaire qu'elle charrie loin du parcours tout tracé des universitaires. Y aurait-il donc une vie en dehors de l'école, des institutions, en dehors des sentiers battus, des diplômes et des protocoles? C'est en tout cas ce à quoi elle semble nous inviter et ce qu'elle semble nous promettre. Et ce n'est pas pour rien que cet ouvrage collectif qui lui rend hommage a donc décidé de joliment qualifier Illich d'alchimiste des possibles. Car c'est bien avec lui le possible contre la nécessité mécanique des institutions, contre leur capitalisation des savoirs, des corps, des biens et des mouvements, contre la reproduction et la dépendance qu'elle crée au système. Mais il ne s'agit pas seulement de l'école pour Illich, car après sa critique au début des années 70 de la scolarité, comme on l'a entendu, il y aura celle des hôpitaux, des transports ou encore du progrès technique. Mais par contre, de la suite et pour la suite, eh bien Illich ne dira pas quoi faire et comment faire. Il critiquera sans donner de voie de secours, sans proposer autre chose. Mais alors, est-ce si grave? Faut-il vraiment savoir quoi faire quand on est contre les institutions et les programmes?
Ah bah ça peut aider, enfin bon, la discussion est ouverte.
Non, c'est bien de rester dans la critique aussi, à l'image de sa vie. Ivan Illich.
C'est ce que fait Ivan Illich, en tout cas.
Ça.
L'alchimie des possibles, très beau titre.
Très beau titre, c'est chez Le Mieux Éditeur, c'est sous la direction de Martin Fortier et Thierry Paco.
Merci Géraldine. Et merci à tous, merci à vous, Romain Huret, qui est encore en studio. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. Donc on se retrouve demain, je vous l'ai dit, pour on vous proposera une nouvelle diffusion de l'entretien enregistré avec le philosophe Michael Sandel, qui viendra vous parler de ce que l'argent peut acheter ou ne peut plus acheter aujourd'hui dans le monde. C'est en lien avec la discussion que nous venons d'avoir avec vous, Romain Huret. Je vous vois sourire de l'autre côté du studio.